Merci à toi, Corinne, l'instigatrice de cette soirée. Et alors, je ne résiste pas à l'envie de vous dire que de m'être demandé qu'est-ce qui pouvait bien avoir été dans votre tête à la lecture du titre. J'espère que vous êtes allé au-delà de la lecture du titre, parce que ce dont il va être question ce soir, c'est une sorte d'hommage au livre avant toute chose. Et pour le journaliste que je suis, c'est une perspective extrêmement intéressante, parce que bien évidemment, je suis reconnaissant aux médias de concourir à mettre dans l'agenda à des débats de société, mais je ne vous cache pas les réserves que je peux avoir sur la manière dont ces débats sont mis en place, les termes des débats, la manière dont les termes des débats sont posés. Et plus ça va, plus je découvre, redécouvre les vertus du livre, de l'édition, et en mesurant à quel point le travail de l'éditeur, c'est aussi de concourir à. J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais je profite de cette assemblée pour le dire, qui concourt à mettre dans l'agenda des débats de société, des sujets extrêmement divers. Et je suis très heureux donc de contribuer, de participer à cette soirée comme animateur et lecteur, parce que c'est une manière de rendre justice à ce travail-là, un travail de l'ombre, insuffisamment reconnu, me semble-t-il. D'ailleurs, avant de vous donner la parole, mes messieurs, madame, messieurs, les auteurs, les co-directeurs d'ouvrage, j'aimerais entendre comment les représentants des maisons d'édition qui ont accueilli les fruits de votre labeur intellectuel, de vos échanges, et donc les représentants de votre livre, Martine, comment genre et identité sexuée chez Colette, à savoir donc les éditions des presses universitaires de Rouen et du Havre, et puis la représentante également des éditions de l'INED, qui a édité, fait ce travail d'édition de votre ouvrage, Mathieu et Wilfried, dont on parlera. Donc peut-être en commençant par vous, en vous demandant de vous présenter, parce que vous remplacez au pied levé les directrices de collection de votre maison d'édition. Et pour cela, vous êtes venu de
De Rouen,
Rouen
tout à fait,
par le train,
par le
j'imagine.
train, par la
Merci pour cela.
SNCF, par nomade, à l'heure. Donc voilà, je suis Emmanuelle Ludier, éditrice aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Et donc depuis 2024, le 1er janvier, il y a deux nouvelles directrices de collection qui pouvaient pas venir ce soir. Donc en fait, cette collection est née vraiment de l'initiative de deux professeurs chercheuses à l'université Rouen-Normandie qui ont voulu créer cette collection qui n'existait pas aux presses universitaires de Rouen. Certes, il y avait des ouvrages qui parlaient des figures féminines oubliées de la littérature et de l'histoire. Mais donc, il se trouvait qu'à ce moment-là, en 2012, a été fondé l'Institut du genre. Et donc, conjointement à cette création, ce qui les a motivés, c'est créé par, je rappelle juste, par l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Et en même temps, le genre figurait parmi les thématiques phares de recherche de l'Université Rouen et du Havre. Donc c'était pour elle vraiment un moteur. Et les Pures ont accepté, bien évidemment, la création de cette collection avec l'arrivée de trois ouvrages qu'elle proposait à ce moment-là. Voilà.
Bien, merci. Et je reviendrai tout à l'heure vers
Tout
vous
à fait.
Pour une question peut-être plus transversale, donc je vous réserve la surprise, mais sans plus tarder. Alors, Martine Rousseau, si vous pouviez venir vers moi le temps de cette présentation et le temps qu'on puisse que les personnes puissent vous voir à l'écran. Ce n'est pas filmé de manière en direct, mais il y aura une visio qui circulera, donc autant vous voir. Et c'est vous, Martine Rousseau, qui avez donc éditer cet ouvrage dont on va parler
Oui,
amplement.
Bon, ma participation est assez modeste.
Hein, oui,
on
oui,
va,
oui,
on
oui.
va rendre à César ce qui est à César. La rédaction du livre, évidemment, revient à tous les contributeurs et aux co-directeurs d'ouvrage. Vous posiez la question tout à l'heure de quelle différence entre une journée d'études
dont
est issu l'ouvrage, enfin qui a donné lieu à un ouvrage. La différence essentielle, c'est que nos collections à l'INED, toutes les collections à l'INED sont évaluées par un comité de lecture. par les pairs, des personnes qui proposent des projets. Donc c'est la grande différence. Hein. Et après, effectivement, ça rentre dans le circuit d'édition et on fait de l'édition classique d'ouvrages, de mise en page, de relecture, etc. Pour parler de la collection, ça c'est le dernier ouvrage qui est paru il y a quelque temps. C'est une collection qui existe depuis à peu près une trentaine d'années, qui est plutôt adressée à des chercheurs et des étudiants pour aider dans leurs travaux sur les concepts, sur les théories démographiques et en même temps sur des outils de méthodologie et de pratiques statistiques, parce qu'évidemment c'est fondamental hein, dans cette discipline. Néanmoins, il y a certains titres qui, je dirais, et notamment celui-là, en particulier celui-là, qui sont un peu plus accessibles à un public qui reste motivé, mais qui est intéressé par ces questions, qui n'est pas forcément dans un souci de travail, de recherche d'écriture de thèse. Cet ouvrage, en tout cas, est particulièrement accessible, moi, je trouve, par rapport à la thématique. Et puis, c'est intéressant aussi d'avoir un ouvrage qui campe une sorte de bilan scientifique de différentes catégories dont on ne sait pas toujours, dont on parle en fait, hein, catégories qui sont souvent évoquées dans les médias, mais là au moins on a quand même des définitions et un périmètre d'explication qui est au moins scientifiquement fiable.
Alors voilà. Vous défendez ce livre très bien, vous le présentez très bien, peut-être trop bien, vous êtes juge et partie, mais en fait j'abonde dans votre sens, je suis journaliste et malgré des pages quand même qui signe l'ambition quantitative hein, de l'année marche, entre autres pages. Effectivement, c'est un ouvrage accessible et qui peut concerner bien au-delà, et on y reviendra tout à l'heure, les minorités de genre et de sexualité dont vous allez nous parler.
Je vais juste, excusez-moi, oui. Il y a du quanti, mais il y a aussi du quali. Oui. Je préfère quand même le dire, parce qu'il y a aussi un travail sur les entretiens qui est fondamental dans les enquêtes. Et c'est aussi une partie du livre importante. Hein. Voilà. Donc,
voilà, pour vous confirmer. Hein. Voilà, très bien. Merci Martin. Et de même, je vous ressolliciterai tout à l'heure avec ma question surprise. Auparavant, je ne résiste pas à l'envie de dire que le monde de l'édition est merveilleux parce que
on peut réunir des ouvrages
De factures très différentes, malgré ce que vous venez de dire à l'instant. Nous avons quand même, d'un côté, avec minorité de genre et de sexualité, un ouvrage de sociologue auquel participent également des sociodémographes. Donc, on est bien dans une démarche quali et quantitative, avec force chiffres, etc. Et puis, nous avons, avec Martine Red, un ouvrage « Genre et identité sexuelle chez Colette », qui est plus un ouvrage de facture littéraire. Mais néanmoins, je ne résiste pas à l'envie d'emblée de souligner des convergences possibles. D'abord en jouant sur le mot de genre, en considérant que finalement l'un et l'autre participent d'un même genre, ce que j'appellerais la littérature grise, au sens où vous êtes des scientifiques, vous-même Martine, vous êtes professeur émérite de littérature à l'université de Lille, et donc nous avons affaire à des approches d'universitaires, et ça c'est le premier peut-être point commun, et le deuxième point commun c'est le mot genre qui figure dans les deux titres. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez commencer les uns et les autres par nous rappeler ce que l'on sait tous, à savoir ce qu'il faut comprendre par la notion de genre? Qui commence? Alors, je suis prêt à mettre à disposition un micro. Martine?
Merci. On peut commencer par une définition simple. Le genre est un outil conceptuel. C'est pour ça que généralement on dit le genre et non pas les genres, comme on le voit parfois mentionné. C'est effectivement une distinction qui va travailler à faire clairement la différence entre le biologique, ce qu'on en sait, et là il y a beaucoup de choses à dire, et la construction sociale. Et c'est pour ça que la sociologie, c'est évidemment est logiquement intéressé à cette question d'entrée de jeu. La littérature, en revanche, a des positions plus difficiles, mais je pense que le genre convient parfaitement à l'objet littéraire, et c'est une des choses que nous avons essayé de faire avec mon collègue et moi, à l'occasion d'abord d'un colloque et ensuite de la constitution d'un volume, c'est de bien montrer l'intérêt et le déplacement du coup d'une série de questions par l'utilisation du genre. Mmh.
Oui, Mathieu. Donc, ouais. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, puis merci pour l'invitation. C'est vrai qu'en sociologie, le genre est un outil assez classique maintenant, en fait, pour analyser une forme de division et de hiérarchisation sociale du masculin et du féminin. Mais on a aussi voulu prendre en compte d'autres usages de la notion, où parfois on parle d'identité de genre, donc on voit que la question est moins celle d'un rapport social que d'une identité. Et puis aussi, le genre peut se dire de manière binaire entre hommes et femmes, mais aujourd'hui, il y a d'autres manières non binaires en termes soit de non-binarité, soit de trajectoire de mobilité de genre, en termes de masculinité et féminité aussi. Et donc, on voit, l'idée, c'est de. Un des objectifs de notre ouvrage, c'est de proposer en fait des manières d'objectiver ou de saisir en fait le genre dans ses différentes dimensions.
Ce que ne va pas démentir Wilfried, qui peut... Alors, prenez le micro parce que vous pourriez apporter un complément en précisant ce que vous entendez par minorité de genre et de sexualité. C'est l'occasion de rappeler les différentes catégories. Je mets des guillemets, j'aurai l'occasion de m'expliquer sur le pourquoi des guillemets.
Oui. On a voulu mettre l'accent sur cette notion de minorité, de minoritaire pour deux raisons. Parce que, comme Martine l'a rappelé, hein, la démarche de l'ouvrage, elle s'inscrit dans une réflexion méthodologique assez, assez forte. Et un des enjeux, c'était d'aborder la question du minoritaire au sens quasiment numérique. Comment les outils des sciences sociales abordent les populations qui sont numériquement minoritaires. Mais ce qui relie aussi les minorités de genre et de sexualité, c'est le fait qu'elles sont socialement minorisées. C'est-à-dire que socialement, le regard qui est porté sur elles est souvent négatif, dépréciatif, s'inscrit dans une histoire assez complexe et souvent traversée par des formes de hiérarchie et de minoration. Donc, et c'est ça qu'on a cherché à questionner, comment là aussi les outils des sciences sociales peuvent permettre d'étudier ces populations minorisées.
On va essayer d'en savoir un peu plus en poursuivant le dialogue déjà avec tous les deux, en rappelant que donc, c'est un ouvrage collectif qui finalement donc, aborde la question en la déclinant, en donnant, comme j'aime à dire à tort ou à raison, des coups de sonde, en déclinant les thématiques. Hein. Il sera question de la manière de quantifier, de saisir, d'identifier, de visibiliser les couples homosexuels dans les enquêtes. On y reviendra avec vous, Wilfried, puisque c'est l'objet de votre contribution. Il y a également des contributions sur les bisexualités féminines, etc. Ce quoi j'aimerais revenir d'abord, c'est sur le projet global, le projet d'ensemble. Je le dis avec mes mots, charge à vous de me corriger ou de préciser. Ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est qu'il aurait eu pour ambition de se doter des moyens de quantifier cette minorité dont on parle, etc. Il aurait déjà fait œuvre utile, quoique. Mais il va déjà, en fait beaucoup plus loin, au sens où il mène une réflexion sur les outils utilisés dans les enquêtes, les recensements, pour y pointer les biais, de manière bienveillante, hein, ce n'est pas un discours critique, etc., mais vous pointez les biais utilisés. Donc il y a une démarche réflexive, j'utilise ce mot, c'est le mot que vous utilisez, et vous allez encore plus loin en montrant qu'on peut tout à chacun, qu'on fasse partie ou non de l'une ou l'autre de ces minorités, on gagne à comprendre finement les pratiques, les modes de vie de ces populations en se gardant de les enfermer dans des catégories figées, d'où les guillemets de tout à l'heure, etc. Est-ce que je me suis fourvoyé dans la lecture de votre livre et dans la compréhension du projet d'ensemble? Mais je vous vois abonder du chef Wilfried depuis tout à l'heure, ce qui me rassure.
Oui, oui, absolument. l'idée centrale était vraiment justement d'étudier ces catégories par lesquelles on aborde ces minorités qui, justement, parfois utilisent elles-mêmes, d'ailleurs, des catégories pour se définir et s'identifier. Voilà, la réflexion sur les catégories, elle était importante dans une perspective critique, justement pour éviter tout problème que pose la démarche de catégorisation en général, c'est-à-dire celle qui a tendance à réifier un peu les personnes, à, pour le dire d'une manière un peu plus triviale, leur mettre une étiquette dessus sans se poser la question de ce que ça signifie. Ce que le livre cherche à montrer, c'est que d'une part, il y a plusieurs manières, plusieurs catégories pour dessiner une cartographie de ces minorités et que chaque catégorie qui est utilisée soulève des questions qu'on se doit en tant que chercheur impérativement soulever pour en voir les limites et aussi les avantages. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux rajouter.
Mathieu, voilà. Oh, Mathieu est chargé de recherche. Wilfried est directeur de recherche, mais Mathieu a le droit d'intervenir, Mathieu, sur ce projet.
Non, peut-être que oui. Pourquoi avoir parlé de minorité de genre et de sexualité plutôt que de LGBT, qui est un acronyme qui, en fait, circule beaucoup dans l'espace social aujourd'hui, et donc d'envisager des processus de minoration aussi. C'est-à-dire qu'on, on a, l'objectif de l'ouvrage n'est pas de dire on est X% de bisexuels, X% de trans, même si on a des informations comme ça. Mais l'idée est de dire comment et pourquoi en fait on a besoin de compter ces minorités et comment en fait dès qu'on engage ce processus de mise en chiffres, on fait face à un ensemble de problèmes, notamment en fait des petits effectifs, ce qui est, on pourra revenir là-dessus si vous voulez, ce qui est un problème pour les enquêtes statistiques. Que quand on a vraiment des petites populations qu'on a du mal à saisir dans les enquêtes ordinaires. Mais ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est qu'il y a des dynamiques démographiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement la question, donc, n'est pas celle de mieux inclure, en fait, des populations minoritaires, par exemple, en disant, bah oui, on va poser explicitement des questions pour identifier des homos, des bi ou des personnes trans. Mais d'essayer, c'est, le livre est aussi issu de ça. À l'international, on voit qu'il y a une augmentation pour une part de ces populations, une transformation de plus en plus de personnes bisexuelles, de plus en plus de personnes qui engagent un parcours de transition. Est-ce qu'elles ont toujours été là finalement et qu'aujourd'hui il y a la possibilité de devenir ce qu'elles sont, ou est-ce que, comme dans d'autres phénomènes, en fait, c'est des populations qui s'accroissent en fait parce qu'il y a un espace des possibles en fait qui bouge. Et donc c'est cette idée de dynamique des populations,
de trajectoire,
plus que simplement d'essayer de donner un vrai chiffre, ce qui n'existe peut-être pas vraiment en fait en sociodémographie, qui nous a semblé important.
Même si vous en donnez, etc. Et là, vous anticipez très largement sur le propos de votre contribution, qui essaye de saisir ces identités finalement mouvantes, mobiles, au fil du temps. Auparavant, restons sur le projet d'ensemble, qui est aussi de rendre justice à des travaux antérieurs, et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y avait une enquête pionnière que dans les années 40, 50, aux États-Unis, et pionnière, alors en quoi ? Vous pouvez le rappeler ?
Oui, alors c'est l'enquête d'Alfred Kinsey, qui est la première enquête. Enfin, disons qu'en fait, une des questions qu'on peut se poser, c'est pas simple.
On me signale de vous rappeler la consigne, près du menton.
Comme ça, plutôt.
Vous pouvez coller au menton.
Ouais, c'est un peu super. Peut-être on peut poser la question comme ça, c'est-à-dire que pourquoi en fait s'interroger sur les minorités de genre et de sexualité ? Et en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles s'interroger. Et sans doute un des premiers moments de problématisation en fait de ces minorités, c'est fin 19e, début 20e, dans un cadre qui est très médical, mais aussi dans un cadre littéraire. Je pense qu'on y reviendra, où finalement ces identifications émergent, en particulier parce qu'elles apparaissent comme des problèmes sociaux, comme des déviances. Donc après, évidemment, la science en fait se saisit de ces populations, en partie pour les soigner, parce qu'on les conçoit comme quelque chose comme un fléau social. Là où Kinsey fait rupture, donc Kinsey en fait a une formation d'éthologue, il s'est intéressé à des fourmis ou je sais plus quoi avant, à des petits animaux, et en fait il va analyser finalement la sexualité de la population américaine, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale de manière très objectiviste, en fait, en disant, bah, en fait, on va compter, finalement, on va analyser ça comme une espèce de diversité d'expérience dans la vie des êtres humains. Il va proposer deux choses qui vont rester célèbres. D'une part, une échelle, en fait, en disant,
mais
en
continuum.
Fait, un continuum de désir sexuel en disant, bah, souvent, on oppose hétéro et homo, mais en fait, ce qui se passe plutôt, c'est que il peut y avoir des attirances. On peut être plutôt hétéro et un peu homo aussi, etc., etc. Et donc il y a une espèce d'échelle en fait qui va mettre en place, ce qui va lui permettre de dire qu'en fait il y aurait 10% en fait de personnes homosexuelles ou en tout cas qui ont des attirances pour le même sexe. Mmh. Et dans ce cas-là, on a un bon exemple en fait de c'est quoi la quantification, puisque en fait le chiffre est pour une part faux, c'est-à-dire qu'en fait scientifiquement, à nos yeux aujourd'hui, finalement, c'est pas très robuste d'un point de vue statistique. Par contre, en fait, c'est un chiffre dont les militants homosexuels se sont emparés en fait pour porter la cause. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'usage politique,
voilà, de la statistique,
des données statistiques et des données chiffrées qui nous semblent importantes. Qui est importante à analyser. Et par contre, donc c'est un exemple d'enquête chiffrée, pas robuste, mais qui montre bien la place, qu'il y a une demande en fait de chiffres là-dedans. Et ça, on voit aussi que l'enjeu, c'est pas simplement de donner un chiffre, c'est d'analyser les catégories à partir desquelles on saisit en fait ce type de désir, de pratique, mais aussi d'identification.
Alors à la décharge de Kunze, je dis à la décharge, mais vous en faites absolument pas le procès, c'est que à l'époque, donc il sollicite des volontaires en distribuant, diffusant des questionnaires dans des lieux de sociabilité, etc. Quelle en a été, peut-être on peut poursuivre avec Wilfried, la réception en France et dans la foulée, mais Mathieu pourra y répondre, quel a été le rôle d'une institution comme l'INED dans l'inscription dans l'agenda de ce type d'enquête, de la recherche de ce type d'enquête ?
Sur la recherche en sciences sociales, il n'y a pas de réception immédiate au sens où il n'y a pas de travaux qui vont s'en emparer dans les décennies qui vont suivre. Il faut attendre en fait les années 70 d'abord, avec une première enquête sur la sexualité qui va insérer à son questionnaire des questions sur le fait d'avoir déjà eu un rapport avec une personne de même sexe, ce qu'on appelle le rapport Simon. Et puis, dans les années 80, on va voir apparaître des enquêtes assez inédites qui fonctionnent un peu sur le même mode, c'est-à-dire sur la participation de volontaires qu'on va chercher dans des espaces de sociabilité, qui sont les enquêtes initiées par quelqu'un qui a travaillé dans cette maison, Michael Pollack, qui a travaillé avec Marie-Ange Schiltz, justement en mettant en place des enquêtes tout à fait importantes dans l'histoire des études gays et lesbiennes un peu plus tardivement. Pour ce qui est de l'INED, alors, on n'a pas fait de recherche un peu systématique sur la manière dont l'INED s'est emparée des questions relatives à ce qu'on appellerait aujourd'hui les minorités de genre et de sexualité depuis sa création après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il nous semble que la thématique est apparue plutôt dans les années 90, à la lumière en fait d'une politisation de l'homosexualité largement liée au débat sur l'ouverture, la création plutôt d'une forme d'union légale pour les couples de même sexe. À partir de ce moment-là, il y a eu une réflexion portée par des démographes, en particulier par Patrick Festi, un ancien directeur de l'INED, qui s'est vraiment emparé de cette question pour questionner la manière dont les outils des démographes, en particulier les recensements, permettent de travailler sur les sexualités. Et puis, en parallèle, ont émergé des enquêtes un peu plus importantes sur la sexualité, des enquêtes représentatives en population générale, qui permettent d'établir des statistiques sur l'ensemble de la population et qui ont assez vite impliqué l'INED parce qu'elles avaient une dimension démographique assez forte. Donc, elles ont associé, en fait, l'INED et l'INSERM, parce qu'il y avait toute une problématique autour de la santé dans les années 90, alors qu'on était dans le contexte du sida. Et voilà. Et depuis, c'est vrai que c'est une dimension qui est assez présente à l'INED et que plusieurs chercheuses et chercheurs ont cherché à consolider.
Voilà. Tout à fait. Ce dont témoigne la collection dont nous parlait Martine Rousseau tout à l'heure. Avant d'en venir à une autre Martine, une question à chacun sur vos contributions respectives, en commençant peut-être par vous, Mathieu. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que je trouvais extrêmement intéressant, entre autres choses, c'est la manière aussi dont vous essayez de saisir des catégories, maintenant vous comprenez le pourquoi des guillemets, mais qui sont dynamiques, hein, pour reprendre votre, qui bougent, etc., et qui ont ce sens, et là, ben, peuvent être riches d'enseignements sur des évolutions en cours qui pourraient annoncer des évolutions concernant tout à chacun, relevant ou pas de ces minorités. Je vais vous citer pour attester du fait qu'il y a aussi un plaisir de lecture, malgré bon, la démultiplication des tableaux, des chiffres. Vous dites « Les personnes qui s'identifient comme homosexuelles ne sont pas les seules à exprimer une distance par rapport à des normes ou des pratiques de masculinité ou de féminité. Les hommes qui ne se sentent pas très masculins ou investissent des activités considérées comme féminines et les femmes qui ne se sentent pas très féminines ou investissent des activités considérées comme masculines ne sont pas nécessairement homosexuelles ni déviantes. » Déviantes, bien sûr, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire s'écartant des normes construites socialement, bien évidemment. Il y a des variations, c'est le mot-clé, de formes de masculinité et de féminité qui sont plus ou moins possibles et tolérées selon les contextes historiques et sociaux. Et ça, c'est ce qui vous autorise à dire ça, c'est justement cette étude des minorités et des problèmes qu'elles posent au regard de leur aspect dynamique, évolutif, des trajectoires dans lesquelles elles s'inscrivent. Est-ce que vous vous retrouvez ? Je vous vois aussi opiner du chef, ça m'assure.
Oui, tout à fait. Oui, donc le point de départ en fait de ce chapitre sur les variations du genre, le point de départ est très simple en fait, c'est de dire que, comme on le disait au début, le genre est un rapport social. Comment on fait pour le saisir dans une enquête quantitative ? En fait, on pose simplement la question : êtes-vous un homme ou une femme ? Et après, on le transforme finalement dans des rapports sociaux de sexe. Sauf que, en fait, et là, je rejoins un ensemble de travaux, ces 10-15 dernières années, qui soulignaient que le genre n'était pas que binaire et que c'était peut-être un indicateur un peu important, mais peut-être pas un peu pauvre, en fait, pour saisir le genre. Alors, il y a une manière, et notamment, c'est la critique qui a été portée souvent du point de vue, en fait, des minorités de genre, donc personnes trans ou personnes non binaires, qui disaient, bah oui, mais nous, on ne peut pas se retrouver, en fait, dans ces enquêtes de stats, elles nous saisissent mal, donc il faut changer, finalement, les manières de poser les questions, ce qui est tout à fait juste. Ce que j'essaie de montrer, c'est de dire, bah oui, en effet, on peut questionner la conception binaire du genre à partir de ce type de minorité, mais en fait, de manière assez ordinaire, finalement, le genre est vécu à la fois de manière binaire et à la fois de manière non binaire, parce qu'on se sent parfois, et à certains moments de la vie, plus ou moins féminin, plus ou moins féminine, plus ou moins masculin, plus ou moins masculine. Et dans l'enquête que j'analyse, on avait posé une question, en fait, sur est-ce que vous vous considérez comme très masculin, plutôt masculin, très féminine, plutôt féminine. Donc des échelles en fait de féminité et de masculinité. Et ce que je montre, et le truc qui m'avait intrigué, mais peut-être que c'est juste le point de départ, c'est que finalement très peu d'hommes, enfin beaucoup d'hommes en fait se disaient très masculins, mais il y en avait très peu qui se disaient pas très masculin, c'était le cas de 2%,
micro.
Alors qu'il y avait près de 10% des femmes qui se disaient pas très féminines. Et donc j'ai essayé de, en fait, l'article repose sur l'idée, bah voilà, en fait, on voit bien que il y a des groupes de sexe, mais dans ces groupes de sexe, il y a des variations du genre et qui sont manifestement différentes selon les hommes et selon les femmes. Mmh. Et après, j'ai essayé de montrer finalement que chez les minorités sexuelles, donc homo ou bisexuelles, là encore, les positionnements de genre ou les variations du genre étaient assez différentes et on trouvait l'écho de quelque chose qui a été central au début, fin 19e, début 20e, cette idée d'inversion de genre qui est évidemment très pathologisante au début du 20e siècle, mais qui a marqué en fait non seulement l'expérience, mais aussi les rapports à soi, les manières de se rapporter à elle-même des minorités sexuelles et qu'on le saisissait finalement dans une enquête statistique à partir d'un indicateur un peu moins binaire que ce qu'on trouve d'habitude.
on pourrait prolonger la discussion, mais on y reviendra à travers les questions de la salle. Juste une réflexion à voix haute et on poursuivra avec Wilfried. Mais vous montrez aussi les effets, peut-être que vous me corrigez, hein, mais les effets de classe dans l'affirmation de sa non-masculinité. C'est sous couvert, c'est pour se faire apparaître comme quelqu'un d'assez ouvert, alors qu'en fait, il y a des...
Ben, je vous laisse. Oui, c'est ça. En fait, on peut dire la question, on saisit comme souvent, en fait, dans une enquête de stats, alors ça dépend des indicateurs, mais on saisit pas simplement ce que les gens sont, mais la manière dont ils se présentent. Donc, c'est parfois difficile, en fait, de distinguer les deux. Et l'idée, c'était de montrer que finalement, en fait, un des points qui m'intéressait, c'était que il y avait une partie des hommes qui se trouvaient pas très masculins, qui avaient beaucoup de capitaux en termes professionnels, en termes sociaux. Et donc, c'était ce qu'on peut appeler une masculinité un peu distinctive, qui n'a pas vraiment d'effet, en fait, sur la question des rapports de genre. Alors, il faudrait aller voir plus loin, mais on ne voyait pas trop dans leur trajectoire, en termes conjugaux ou sexuels, ce que ça a changé, mais qui permettait de se distinguer de masculinité, par exemple, un peu violente, par exemple, un peu plus vulgaire. Donc, on voyait là, et là, ça nous inscrit, bon, je terminerai là-dessus, mais ça inscrit dans une histoire des masculinités où on voit que les valeurs données aux masculinités changent, en fait, selon les périodes. Et c'est sans doute ce qui est en train de se passer aujourd'hui, notamment autour des questions de violence et de sexualité.
Donc, une belle illustration de ce que vous suggériez, Martine Rousseau, à savoir le fait que l'approche quantitative n'empêche pas un travail de dentelle, une analyse extrêmement fine, qualitative des choses. Je l'ai dit aussi ce livre aborde le sujet sous différents angles. Et en ce qui vous concerne, Wilfried, vous l'abordez au regard d'un autre problème, au regard des défis méthodologiques que ça pose, c'est les couples de même sexe. Alors que vous essayez de montrer comment les enquêtes ont essayé de les visibiliser, de les quantifier, non sans difficulté, dont je vous laisse le soin de dire quant à la nature de ces difficultés.
Oui, on peut même avoir l'impression que dans un premier temps, en tout cas avant les années 2000, les enquêtes ont plutôt tendance à invisibiliser les couples de même sexe. Alors, je peux prendre un exemple bien précis, celui du recensement, justement, qui permet aux individus de déclarer les relations que les personnes ont avec les autres membres du logement. Donc, à ce titre-là, il est possible de déclarer un partenaire, un conjoint, etc. Mais jusqu'au milieu des années 2010, l'INSEE recodait ces configurations pour les faire apparaître comme des ménages de personnes célibataires, des personnes amies ou des colocataires, ce qui invisibilisait complètement les couples de même sexe. Ce qu'on voit apparaître à partir de ces années 90, et justement là aussi en lien avec la politisation que j'évoquais tout à l'heure, hein, à travers la création du PACS, puis ensuite les débats sur l'homoparentalité et le mariage, c'est une préoccupation de la recherche pour créer de nouvelles catégories qui vont permettre de prendre en compte justement des conjoints, des partenaires de même sexe. Donc on va voir les questionnaires bouger, là où on demandait auparavant à des hommes quelle est la date de naissance de votre femme, en partant du principe que la conjointe était nécessairement une femme. On va modifier les questionnaires qui vont être de moins en moins hétérosexués pour permettre à différentes configurations de s'exprimer. Alors, à la fois le fait d'être en couple de même sexe, mais aussi des formes relationnelles qui sont justement caractéristiques des minorités de genre et de sexualité, comme par exemple le fait de pouvoir déclarer un partenaire, un conjoint avec lequel on ne vit pas. C'est quelque chose qui, par rapport auquel les enquêtes démographiques ont pris un peu de distance. C'est vrai qu'auparavant, on regardait le couple uniquement, alors dans un premier temps, dans les années 60, par exemple, sous le prisme du mariage et de la cohabitation. Et puis progressivement, on a un peu pris de la distance par rapport à la nécessité du mariage, hein, là aussi en lien avec les évolutions sociales. Et puis depuis quelques années, on voit très bien dans les questionnaires qu'il y a d'autres formes relationnelles qui apparaissent, parfois même dans quelques rares questionnaires, la possibilité de déclarer des formes polyamoureuses. Bon, c'est très embryonnaire pour l'instant, mais c'est quelque chose qui se voit et qui, en tout cas, on a plusieurs éléments à travers les recherches qualitatives qui existent, laissent entendre qu'elles concernent ces formes relationnelles, au premier chef, les minorités de genre et de sexualité.
Merci, hein. C'est encore une belle illustration de l'esprit général de ce livre qui est de montrer, si j'ose dire, les problèmes que posent les minorités, mais au regard, voilà, vous opinez du chef, vous m'avez compris, c'est-à-dire au sens des défis méthodologiques que ça pose, et en cela c'est passionnant. Martine, je vous observais de temps en temps, vous n'avez pris aucune note, mais vous avez écouté attentivement nos deux intervenants, et alors je l'ai annoncé, votre livre est d'une facture totalement différente, c'est un ouvrage de littérature grise au sens où c'est un recueil de textes d'universitaires, mais qui comment puise du côté de la littérature là au sens strict, et pour cause, puisque il aborde comment il invite à redécouvrir Colette au prisme du genre. Mais je me mettais un peu dans votre esprit, dans votre tête, j'imaginais vos réactions, et je pense que finalement Colette est une belle illustration de cet état flou dont vous nous parlez, au sens, on va le découvrir, qu'elle décline une multiplicité d'identités. Mais...
Oui, alors justement, je profite de l'occasion pour rebondir tout à fait sur ce qui a été dit, parce que je pense que le principe est très juste. Nous avons besoin de nuances et de décliner ce qui est en réalité un spectre de positions à l'égard de et du genre et des identités sexuées. Et la littérature offre de ce spectre toutes sortes de positionnements possibles, puisqu'elle est à la fois résultat de l'imagination, sans doute, mais aussi de la réalité, dont elle est un miroir plus ou moins déformant. Et puis, il y a, et je me suis intéressée à cette question tout particulièrement à l'occasion de ce volume, les choix de vie qui sont faits par les écrivains et les écrivaines. Donc on a évidemment d'une part une œuvre, d'autre part une vie. Les passerelles entre les deux continuent d'être compliqué à penser, mais évidemment, le cas de Colette est particulièrement intéressant à cet égard.
Alors, sauf que Colette est une auteure autrice française. On aurait pu imaginer que l'intérêt de cet auteur au prisme des questions de genre, des gender studies, viennent d'universitaires français ou francophones, mais ce qu'on découvre d'entrée à la lecture de votre introduction, c'est que en fait c'est du côté des États-Unis qu'il y a eu un premier intérêt de Colette au prisme des questions de genre.
Oui, pour des raisons évidentes, et c'est d'ailleurs avec Frédéric Canovas, qui malheureusement ne peut pas être là, mais qui enseigne aux États-Unis, que nous avions travaillé, pour la bonne raison que les États-Unis ont pris sur ces questions une bonne longueur d'avance, si ce n'est plusieurs, et si on regarde le seul petit champ qui est le mien, à savoir la littérature des femmes, les recherches dans le monde anglo-saxon ont commencé beaucoup plus tôt, de manière beaucoup plus dynamique, et ont posé toutes sortes de questions qui sont revenues ensuite lentement et encore pas partout et pas dans toutes les situations, et qui nous ont donc obligés à notre tour à nous intéresser à ces choses.
Alors, un intérêt outre-Atlantique qui déborde très largement le champ universitaire, parce que ce que vous nous rappelez, c'est aussi le rôle décisif qu'ont eu des films dans les années 50 et plus récemment dans la popularisation de Colette outre-Atlantique.
Oui, ça, je distinguerais peut-être, pour avoir bien en mémoire, notamment la comédie musicale de Vicente Minnelli, qui est peut-être pas le chef-d'œuvre quand même qu'on pourrait 58, imaginer, hein, 58, ça. Oui, que j'ai revu récemment et qui, je trouve, tient très mal la route. Mais il est vrai qu'il y a deux gestes, et c'est ainsi en histoire, c'est aussi de temps en temps aussi le cas en sociologie, c'est-à-dire que la littérature appartient à tout le monde, et évidemment, n'importe qui peut décider d'écrire un biopic sur Colette, qui existe, que les Américains ont fait, en insistant fortement, peut-être un peu lourdement aussi, sur l'épisode, sur le moment lesbien de Colette, qui est aussi le plus célèbre, et d'autre part, en mettant en scène diverses fois quelques-uns de ses romans parmi les plus connus.
Alors, comment entrons un peu plus dans le détail de cet ouvrage collectif, issu d'une journée d'études organisée outre-Atlantique entre des auteurs francophones et puis des auteurs anglophones, hein, je le précise au passage. Alors, ce qui m'a frappé à la lecture de ce livre, c'est un certain nombre de passages, et notamment cette situation où il est rappelé que Colette n'était pas du tout féministe. Elle était même elle a écrit des charges contre les suffragettes, mais nous dit Erika Long, sa vie a été un combat féministe.
Oui, alors là, on entre dans un débat difficile et chacun est libre d'avoir une opinion. La mienne n'est pas celle-là. Je pense qu'il faut prendre très au sérieux l'affirmation de Colette quand elle dit qu'elle n'est pas féministe. Et il faut la prendre au sérieux pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que elle n'est pas la seule en littérature à affirmer clairement qu'elle n'est pas féministe. C'est le cas de Judith Gautier, la fille de Théophile, connue à l'époque. C'est le cas de Lucie de la rue Mardru, qui, à la différence de Colette, quittera son mari pour une femme et restera d'ailleurs avec cette femme tout le reste de sa vie. Donc ce n'est pas un moment lesbien, c'est un vrai choix de la part de cette écrivaine. C'est le cas aussi de Rachilde, nom pris en littérature de Marguerite Emery, par Marguerite Emery. Et donc on a, à cette époque, dans le tournant du 19e, 20e siècle, des femmes qui disent « je ne suis pas féministe ». La question m'intéresse parce que l'histoire du féminisme rappelle que c'est un moment clé en réalité que ces années-là. Et donc l'animosité suscitée par le féminisme rappelle la forte visibilité brusquement des mouvements féministes. Et là, comme par hasard, on trouve effectivement une série de femmes. Et il serait absurde évidemment de croire que parce qu'on est écrivaine, on est féministe. La question est bien plus complexe. Dans le cas de Colette, pas de doute possible. Et je pense que Colette, on n'est pas féministe malgré soi. Vous devez vous souvenir du moment où on disait qu'il y a certains qui sont catholiques malgré eux. Moi, je ne crois pas ça. Je dis que non, elle n'est pas féministe. Elle a fait d'autres choix qui sont très intéressants à considérer.
Mmh. Et on oubliera cette étiquette.
Alors, tout l'intérêt de prolonger la lecture d'un livre par un dialogue avec les auteurs, les autrices, etc., c'est que j'étais persuadé que vous aviez reproduit noir sur blanc cette citation, mais peut-être que c'est votre co-directrice qui a mis en exergue cette citation d'Erika Jong. Mmh. Voilà. Alors, autre intérêt de l'ouvrage, c'est qu'il montre, à travers ses différentes contributions, comment Colette se joue des identités masculines, féminines, mais en allant jusqu'aux confins aussi du monde animal, à travers la création littéraire, ces romans qu'on connaît, mais aussi ce qu'on connaît moins, en tout cas c'était mon cas, c'est son œuvre théâtrale. Et d'ailleurs, plus que ses romans, c'est le théâtre qui sera, pour des raisons qu'on imagine, un lieu d'expérimentation engageant le corps, les gestes, etc. Mais je vous laisse le soin de préciser cet aspect des choses.
Oui, alors, comme c'est toujours le cas pour les ouvrages collectifs, je pense que on l'a entendu aussi pour les deux sociologues qui sont intervenus, c'est un peu difficile de rendre compte de tous les avis qui sont exprimés, c'est le propre du débat intellectuel, c'est de dire, bon, telle a telle opinion, argumente sérieusement, preuve à l'appui, tel autre dit, peut-être, faut-il nuancer, etc. Donc, je parle plus volontiers par force de ma propre position, d'autant que j'ai eu l'occasion, et ça c'est les hasards éditoriaux, ce texte est sorti en janvier et j'ai moi-même publié un essai beaucoup plus important, celui-là, intitulé Colette avant Colette, en novembre. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'une part les questions de place chez Colette et les questions de nom. Et je pense que vis-à-vis du genre, on va voir Colette de manière très intéressante évoluer dans le temps avec des passages qu'on pourrait qualifier de floutés parce que justement ces questions de masculin et féminin commencent à se brouiller Cela prend du temps et on n'est pas, et c'est d'ailleurs une des leçons qui est dit, rappelée par Judith Butler, on n'est pas le même, la même toute sa vie dans ce domaine. Et je pense que ça avait été aussi évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que forcément les positions peuvent changer, dans certains cas de manière extrêmement visible, dans d'autres peut-être plus légères, voire pas du tout, chaque individu étant évidemment libre de régler son rapport à cette question tout à fait centrale. Et dans le cas de Colette, justement, on la voit évoluer, j'ai tenu pour ma part à y insister vers un relatif conservatisme, c'est-à-dire que le moment lesbien a été tout à fait extraordinaire, mais curieusement, il semble bien que pour Colette, en tout cas, c'est ce que j'avancerai, m'appuyant sur un certain nombre de textes, ça se referme ensuite et son hétérosexualité prend le dessus et elle va produire un texte extrêmement ambigu, qui n'est pas du tout un manifeste à l'égard de l'homosexualité, qui est le pur et l'impur. En réalité, ce texte-là, il est, à mon sens, assez désagréablement par moment, en sorte de surplomb à l'égard d'une situation homosexuelle qui n'est plus la sienne au moment où il écrit ce texte. Elle est devenue Madame de Jouvenel. Colette se marie 3 fois, c'est donc le mariage a son importance pour elle, et donc on la voit évoluer. Peut-être y a-t-il, et on peut y réfléchir, bien sûr, mais peut-être y a-t-il eu cette sorte d'ouverture, d'embellie, au moment où elle a quitté son premier mari et où elle est, et elle a vécu pendant 6 ans avec Mathilde de Bornic. Elle a trompé d'ailleurs avec plusieurs hommes. Donc, c'est le moment de la bisexualité et aussi d'une vie ouvertement lesbienne. Et ensuite, les choses se resserrent en réalité. Et donc, je ferai, pour ma part, je défendrai l'idée qu'il y a chez Colette 2 choses à la fois, et c'est sans doute inévitable, c'est-à-dire une vraie ouverture, une vraie attention à ces questions qu'on retrouve dans ces textes, et de l'autre, un conservatisme de fond qui n'a jamais vraiment évolué. Et cette alternance entre des positions conservatrices d'un côté et des positions extrêmement originales et nouvelles de l'autre, à mon avis, fonctionne de conserve.
C'est l'occasion de lâcher un mot que j'avais prévu de lâcher demain, c'est le mot ambivalence. Le fait de tenir ensemble des inclinations apparemment contradictoires. Alors, je n'ai pas mis en avant ce livre, mais merci d'être venu avec un exemplaire. C'est parce que il est édité par Gallimard, c'est ça, ce qui est une maison d'édition prestigieuse, bien évidemment, mais sauf qu'ici, au comptoir, hein, bien évidemment, on privilégie les éditeurs publics émanant d'universités ou d'autres institutions. Mais merci d'être venu, on n'est pas sectaire, hein, voilà, on signale donc la publication de ce livre qui fait très largement, dont votre contribution dans l'ouvrage Genre et identité sexuée chez Colette reprend des éléments. Vous avez parlé du nom de Colette, et alors Colette, c'est pas un prénom.
Enfin, si.
Pardon. Bien sûr, c'est en principe. Mais dans le cas de l'auteur, oui, bien sûr, de l'autrice qui nous intéresse, c'est un patronyme. Faut-il le rappeler ? C'est le nom de son père. Voilà. Et de Jules Colette, etc. Et ça a son importance parce que, à lire les contributions, finalement, tout le projet d'écriture de Colette est aussi une manière de retrouver un nom qui lui soit propre par rapport à celui de Willy, à l'ombre duquel elle a longtemps été.
Oui, tout à fait. La curiosité restant pour Colette, que certes Colette n'est pas un pseudonyme, mais en même temps elle s'est débarrassée de ses 2 prénoms. Elle s'appelait Gabrielle Sidoni et donc ces 2 prénoms ont disparu au profit de ce qui est un prénom, objectivement. Et d'ailleurs, on sait bien qu'en réalité, c'est son premier mari qui l'a appelée Colette, ce qui était son patronyme, dans le souci d'en faire un camarade d'écriture. Le patronyme passant, évidemment, étant une marque du masculin. Hein, Colette raconte que, justement, quand elle était à l'école, à un moment donné, elle se dit « Mais les garçons s'appellent par leur nom de famille, et pourquoi pas les petits petites filles. Pourquoi les petites filles s'appellent par leur prénom? Eh bien non, on va choisir de s'appeler nous aussi par notre nom de famille. Et donc évidemment, sauf que son nom de famille à elle, c'est un prénom féminin, donc ça complique tout de suite les affaires et ça féminise aussi, bien entendu, si on donne quelque sens à ce signifiant de Colette, ça féminise immédiatement le masculin, puisque le masculin, en plus de ça, dans le cas de Colette, c'est un masculin handicapé, en réalité, un homme qui a perdu une jambe, dont on entend le son de la canne sur lequel il ne peut pas avancer dans la maison, donc le rapport au masculin et au féminin est évidemment compliqué d'entrée de jeu dans le cas de Colette.
Avant d'entendre réagir Wilfried et Mathieu et de nous acheminer vers les questions de la salle, je ne résiste pas, quitte à dériver un peu, à m'éloigner un peu de notre sujet, quoique c'est l'occasion peut-être aussi de tordre le cou, en tout cas c'est ce que vous nous invitez à faire, à ce que l'on nous dit, notamment dans ce merveilleux musée Colette qui a ouvert dans l'ancienne maison des parents de Colette, où elle a séjourné à Saint-Sauveur-en-Puisaye, donc en plus du musée. Je ne sais pas si vous y êtes allé, il faut aller le voir. C'est intelligemment conçu. Sauf que, après l'échange qu'on a eu, on nous dit que le père, donc Jules Colette, avait entretenu se retirait dans son bureau pour écrire, etc., jusqu'au moment où on découvre à sa mort que les ouvrages qu'il avait, les cahiers, qu'il avait prétendu couverts, etc., étaient vides. Donc il avait passé son temps à prétendre écrire en léguant finalement des pages vides. Et dans cette perspective, on pourrait considérer que, la reprise du nom, du patronyme par notre autrice est une manière finalement de combler un vide, d'écrire l'œuvre que le père a prétendu avoir écrite sans l'avoir écrite. Mais vous nous dites que c'est une manière peut-être romancée de voir les choses.
Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, vraiment trop belle pour être vraie, c'est le fait que c'est une constante que j'ai retrouvé chez d'autres écrivaines, d'inventer une raison d'écrire. Là, dans le cas de Colette, elle s'invente une mission, c'est-à-dire elle dit, voilà, je viens au fond combler le père, c'est le père qui était écrivain, il n'a pas pu pour toutes sortes de raisons, et moi je viens combler ce manque, ce vide qui a été institué. Sauf que, évidemment, c'est Colette qui fait exister toute la famille, c'est bien elle qui crée le père, ultimement, et ce mouvement-là, on le retrouve chez d'autres écrivaines. Parce que ceci rappelle à quel point la question de la légitimité des femmes en littérature est inlassablement posée. Et donc, on va voir certaines en avoir une conscience très, très forte. Ça dépend d'une écrivaine à l'autre, mais bon nombre en ont une conscience très forte. Et on en voit un certain nombre imaginer toutes sortes de situations qui justifient d'entrée de jeu, justement, la raison pour laquelle elles ont sauté de pas et elles se sont mises à écrire.
Donc, on reste dans notre sujet.
Tout à fait.
Mathieu et Wilfried, je ne vous ai pas vu prendre des notes. Là, vous aviez pourtant des calepins, mais vous étiez très attentifs. En quoi le propos de Martine Red et en quoi le cas, si je puis dire, Colette, intéresse les sociologues quantitativistes que vous êtes?
Alors, pas uniquement, mais...
J'attendais la réaction de Martine Rousseau.
Non, en fait, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a sans doute une certaine opposition dans les études de genre entre des chercheuses et des chercheurs qui s'intéressent à des produits culturels et donc plutôt dans ce qu'on appellerait les cultural studies en mettant ensemble littérature, cinéma et qui ont produit des œuvres en fait très importantes pour notre compréhension du genre et puis des enquêtes de terrain. Et là, je pense qu'en fait, c'est pas la peine de faire une opposition entre Kanti et Kali, simplement en fait des enquêtes statistiques ou des enquêtes ethnographiques qui nous montrent comment fonctionne le genre dans tel ou tel groupe, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a cette opposition, mais en même temps, je pense que c'est, même si c'est pas facile de garder d'essayer de saisir les problèmes communs, en fait, au-delà des différences de méthode que ça pose. Et typiquement, donc, dans le cas des variations du genre, c'est-à-dire, En effet, c'est alors on peut dire fluidité. En effet, ça peut être Butler d'un point de vue philosophique qui a travaillé ce point. Mais c'est vrai que c'est assez frappant de voir que peut-être moi je dirais juste ça comme ça, que comme souvent en fait en sociologie, on identifie des phénomènes dont on peut trouver des antécédents en philosophie ou en littérature. Mmh. Et typiquement en fait sur la question des variations du genre ou des masculinités féminines, ce que Albert Stamm disait ça, ou toutes les interrogations sur les masculinités qui ont été portées à partir des années 90 en sociaux ont été travaillées avec les moyens qui leur sont propres, sans doute en partie par des écrivains. Et donc c'est vrai que Colette était un point. Alors il y a Virginia Woolf qui vient tout de suite, donc c'est assez frappant chez Virginia Woolf, à la fois des figures féminines prises dans des rapports de pouvoir dans vers le phare et dans Mrs. Dalloway, mais aussi en fait des transitions de genre à la fois historiques avec Orlando, et puis toute une réflexion sur la formation des masculinités et des féminités dans les vagues. Donc c'est vrai que ça a nourri aussi ça. Et donc en effet j'avais lu Colette aussi. En fait je m'étais tourné vers Proust initialement sur la question des variations du genre, et j'étais un peu surpris de me dire que Proust avait peut-être pas grand chose à dire sur le genre. Donc en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, mais vous pourriez me dire l'inverse, je ne suis pas spécialiste. Mais Colette, il y avait un truc assez frappant qu'on le relie aujourd'hui en tant que sociologue du genre. C'est d'une part en fait qu'elle interroge des nœuds assez assez forts dans ces rapports-là. La violence masculine quand même au début de Claudine est présente vraiment toujours en filigrane. Alors évidemment, elle n'est pas nécessairement dénoncée, mais c'est au contraire un matériau incroyable pour comprendre comment les violences de genre sont problématisées à l'époque. Ce rapport à la conjugalité, donc dans Claudine en ménage, où on voit qu'il est tout sauf évident en fait, et ça pose des questions aujourd'hui, sur qu'on voit qu'il y a plein de gens pour qui la conjugalité n'est pas très évidente aujourd'hui, ou la routine conjugale. Et puis un point important aussi qui me semble un truc assez central, c'est les rapports d'âge quand même, parce que c'est vrai que aujourd'hui c'est thématisé parfois en termes de violence, mais il y a des écarts d'âge, c'est une problématique démographique ultra classique, et on voit en fait de Claudine, mais juste c'est la naissance du jour, où on voit qu'il y a une histoire entre elle âgée et avec quelqu'un de plus jeune, et on voit comment alors elle est pas très âgée, je pense, je sais pas quel âge elle a à ce moment-là, mais en tout cas de dire ses désirs, c'était quand même quelque chose. Donc il y avait vraiment cette exploration du genre chez Colette, qui donnait des idées en fait pour interroger ça aujourd'hui en tant que sociologue.
Et il va falloir ajouter un L à INED, hein, Institut National des Études Littéraires et Démographiques. Hein, hormis le fait, Wilfried, Colette aurait déjà posé un problème du fait de la démultiplication des couples, cohabitant ou pas, ça vous ne nous l'avez pas précisé, Martine, en quoi son cas vous intéresse, ou les propos de Martine vous intéressent?
Oui, moi, j'ai la discussion par laquelle vous avez commencé sur Colette féministe m'a particulièrement intéressé, parce qu'en fait, elle soulève plusieurs questions aussi pour les sciences sociales, finalement. D'une part, quelle est l'articulation entre une position sociale, une position sexuelle et un engagement. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose assez régulièrement, et de la manière dont on peut saisir cette articulation avec nos méthodologies. Donc ça, c'est un point qui me semble tout à fait important. Et par ailleurs, plus largement, comment on met en évidence des formes d'engagement, à partir de quel moment on peut considérer qu'il s'agit d'un engagement ou pas, à partir de quel moment les populations auxquelles on s'intéresse, qui sont souvent plus politisées que la population générale, on pourrait dire, d'une manière un peu schématique, comment on met en évidence leur forme d'engagement, leur engagement féministe, leur engagement LGBT. C'est vrai que c'est une question qui se pose assez fortement, et pour lequel on a encore beaucoup d'outils à construire pour justement saisir les cheminements dans ce domaine.
Je vais formuler une question, mais à laquelle vous ne répondez pas. On va privilégier les questions de la salle, mais vous la gardez au creux de votre esprit. Et c'est une question qui s'adresse également aux représentantes des deux maisons d'édition. Une question peut-être un peu personnelle. personnel, mais je m'intéresse beaucoup à la fabrique des livres et puis et notamment des ouvrages collectifs. Et c'est, nous sommes en présence d'ouvrages collectifs qui issus de journées d'études, etc. Et ma question serait de savoir quelle est la valeur ajoutée du travail d'édition par rapport à la connaissance produite au cours des journées d'études. En quoi, voilà, c'est l'occasion pour les contributeurs d'échanger, d'amender un certain nombre de choses, voire de prolonger, et d'engendrer peut-être des projets ultérieurs. Mais ça, vous gardez cette question à l'esprit. J'ai promis de donner la parole au public. Il y a probablement des questions qui brûlent les lèvres. Je crois que on doit mettre à contribution notre micro. De votre côté, la contrepartie, c'est juste de lever le bras pour vous manifester. Voilà, monsieur.
Donc, plutôt que dire ambivalent, je prendrais plutôt pour multiface. Multiface au sens de sa généalogie, féminin mais aussi masculin, au bout de ses relations, masculin mais aussi auteur, entre autres personnes, et redevenir féminine. Parce que c'est plus important, vu qu'on parle de la division de genre, on casse, on ne reconnaît pas ces mutations de face, et elle l'a fait d'une manière naturelle, quoi. Peut-être même, j'ai envie de dire, la littérature lui a permis de recomposer ces différentes faces. Et c'est ce qu'on lit quand on lit Colette. C'était ma première question. Sinon, j'ai mis une autre question sur le contexte historique qui a permis cette mutabilité de ces rôles et de ces différentes facettes.
J'ajouterais le théâtre hein, dans cette possibilité de la multiface. Est-ce que les deux questions rejoignent concernent Colette, auquel cas on... Alors, vous pouvez répondre maintenant, Martine, et on prendra la question de monsieur et de madame, et d'autres, s'ils le souhaitent. Merci, monsieur.
Oui, il faudrait ajouter, vous l'aviez dit tout à l'heure, le rapport au monde animal. Parce que là on a vraiment une sorte de chose assez inouïe, même si Colette n'est pas la première à s'intéresser aux animaux, à avoir des discours sur les animaux, etc. Les féministes s'y intéressent depuis les années 1880. Elle arrive donc après, bien après. Seulement, elle est la seule qui sait dire en littérature ce que c'est que ces connivences qui s'installent sans doute possibles entre ces effets de porosité entre la femme et l'animal. Non seulement, évidemment, elle se déguise en chatte, etc. Ça, bon, encore, ça peut paraître tout à fait anecdotique au total, mais pas dans les propos qu'elle imagine. Et cette finesse de perception qui, évidemment, a pour effet de dissoudre ses certitudes en matière d'humain, puisque la voilà déjà un peu animal, est, à mon sens, tout à fait nouvelle. Alors, vous parliez d'historicité. Ce qu'on voit, c'est que, assurément, ces questions commencent à affleurer. Je pense que, justement, ça a été dit tout à l'heure aussi. Ces interrogations sur l'identité sexuée, elles apparaissent en psychanalyse, bien entendu, mais en littérature, en tout cas, elles sont liées au tournant du siècle. Alors, ce qu'on voit, c'est que, pas le temps d'en faire l'historique complet ici, c'est que ponctuellement, elles apparaissent en littérature au moins depuis le XVIe siècle, mais c'est tout à fait ponctuel et la situation est tellement différente historiquement que sans doute les rapprochements doivent-ils être faits prudemment. En revanche, au moment là du tournant du siècle, là, on a une multitude de gestes qui vont dans le même sens, c'est-à-dire où l'homosexualité, la voilà en littérature, aussi bien l'homosexualité féminine que l'homosexualité masculine, avec des situations de bisexualité, que ce soit dans les textes ou que ce soit dans la vie. Et donc là, quelque chose est en train de se passer, sans doute possible, qui va d'ailleurs connaître un coup de boisseau, et je ne sais pas si justement les collègues sociologues seront d'accord avec ça, mais une fois qu'on... Après la Première Guerre mondiale, parce que là, il y a un coup d'arrêt. De toute façon, la patrie a besoin de forces vives, d'enfants, etc. Et là, on a un coup d'arrêt et on va le voir de façon tout à fait intéressante en littérature.
Avant de mettre à disposition mon micro, peut-être d'ailleurs vous souhaitiez réagir sur cette notion, ce concept de multiface. Vous le valideriez ?
Oui, bah alors je pense pas qu'il soit contradictoire. On peut tout à voilà. fait raisonner tout à fait. Avec l'idée qu'on se présente de différentes manières selon les contextes, c'est-à-dire qu'on n'est pas fait d'une seule pièce, mais qu'il y a aussi, et il me semble que dans la notion de variation ou de continuum, il y a cette notion en fait de trajectoire biographique ou de temporalité, ce qui fait en fait que vous voulez, il me semble important d'essayer de saisir non seulement une multiplicité du soi ou des présentations de soi, mais aussi des formes de changement dans les trajectoires des individus, des formes de fluidité de genre et de sexualité qui sont probablement très sous-estimées en effet par des enquêtes statistiques de grande ampleur qui ont tendance à figer un petit peu les individus. Donc en effet, je suis assez d'accord avec vous, c'est notre manière en fait d'aborder un genre pluriel, si on veut dire ça comme ça.
Le directeur de recherche valide le propos du chargé de recherche.
Oui, peut-être revenir sur le contexte historique. Effectivement, ce qu'on observe, alors ce sont pas des travaux sociologiques qui montrent ça, plutôt des travaux en histoire. C'est un tournant qui se situe après la Première Guerre mondiale et encore plus dans les années 30, parce qu'il y a encore dans les années 20, il y a plusieurs thèses qui ont été soutenues ou des travaux de recherche très très poussés qui montrent que dans les années 20, il y a encore une éclosion de beaucoup de lieux de sociabilité permettant justement aux personnes homosexuelles de sortir, de faire des rencontres. Et c'est vraiment à la fin des années 20 qu'il va y avoir un tournant avec une répression assez forte. Mais effectivement, ça fait un peu écho à ce que vous observiez.
À propos de Colette, je pense que c'était une femme surtout qui était essentiellement non engagée, libre, indépendante et curieuse, et que sa démarche n'était pas tellement une démarche homosexuelle, mais plutôt par curiosité, expérimentation. C'est pour ça que je ne dirais pas qu'il y a une évolution, je la qualifierais plutôt comme une nomade du genre.
Bah, ça appelle quand même une réaction de Martin Redd. Hein. Oui, il y avait une autre remarque. voilà.
En fait, je pense que c'est quelqu'un nomade du genre. Qui ne pouvait pas être féministe parce qu'elle refusait les étiquettes. Mmh. Elle refusait d'être encadrée, d'être mise dans une niche. Et que pour moi, en fait, c'était surtout une femme libre qui ne se posait pas la question de savoir je suis ceci, je suis cela. Elle essayait. Elle était homosexuelle comme un certain nombre de femmes à cette époque, dans le petit cercle artistique hein, plutôt. Qui essayait, pourquoi pas, voilà, et que c'était donc un esprit curieux, et que ce qui est intéressant, c'est que, bon, bien qu'elle ne soit pas du tout comparable, on peut penser à George Sand aussi, qui, elle, pour une autre raison, s'est appelée George, pour une légitimité littéraire.
Sans S.
Et sans S. hein, pour... pas parce qu'elle voulait s'afficher, mais parce que c'était plus facile et qu'elle pouvait être publiée beaucoup plus facilement en portant des pantalons et en étant un homme. Et quand on voit aussi son attitude vis-à-vis des hommes, effectivement, elle avait une attitude plutôt masculine et protectrice.
Mmh. Alors, ce ne sont
et
pas
que,
des...
Et la que... dernière, la conclusion, enfin, bon. La conclusion c'est qu'il y a un livre qui est extrêmement intéressant, qui a été écrit entre les deux guerres, qui était considéré comme sulfureux, puisque son auteur, on a retiré à son auteur la Légion d'honneur, c'est celui qui a écrit La Garçonne. Mmh.
Ouais. Avant de laisser Martine réagir, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, éventuellement
Eh bien, j'aime la littérature, ah bah, j'aime l'art.
D'accord, très bien. Vous n'avez pas fait de thèse sur pas Colette encore. Pas encore, voilà.
Je n'en ferai pas parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire, c'est d'expérimenter, d'interroger les gens
et de faire des remarques.
Et de faire des remarques, voilà.
Martine, ça vous inspire des réactions ?
Oui, je voudrais simplement... Vous avez... C'est bon. À propos de la place des États-Unis ou du monde anglo-saxon plus largement dans le débat, on peut rappeler deux choses. La première, c'est qu'effectivement, la répression aux États-Unis, elle existe, une répression sociale plus ou moins ouverte. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez rappelé, on voit arriver Nathalie Barnet, on voit aussi René Vivien, qui est d'origine anglo-saxonne, de la même manière, et Gertrude Stein. Ça, c'est un premier moment. Ce que, dans les études littéraires, on comprend mieux, c'est qu'à partir des années 1970 aux États-Unis, le féminisme est enseigné à l'université. Ce ne sera jamais le cas en France, à l'exception de Paris 8. Donc, le féminisme a un statut particulier qui va donner un coup d'accélérateur vraiment formidable et question attenante, évidemment, dont celle des identités sexuées. Et ça va donner un coup d'accélérateur à la recherche de notre point de vue, absolument spectaculaire. Il va falloir attendre beaucoup plus longtemps, puisque la frilosité, pendant qu'on fait en France de la théorie littéraire aux États-Unis, on pense davantage au féminisme, et ça commence avec les Women's Studies, et ensuite avec les Gender Studies, Queer Studies, etc. Donc le mouvement est lancé. Ça, c'est, à mon sens, d'un point de vue strictement, en termes de recherche, la grande différence.
Monsieur, que je remercie pour sa patience.
J'ai trois remarques sous forme de questions aussi. La première, c'est que dans vos recherches, dans vos études, est-ce que vous prenez en compte l'origine des CSP, l'origine sociale des personnes, parce que les pratiques changent selon les milieux. La deuxième remarque, c'est est-ce que vous prenez en compte le degré de permissivité ou de discrimination du climat social, voire de la loi ? L'homosexualité est toujours pénalisée en Russie, par exemple. Et à l'inverse, sur le territoire d'outre-mer, j'ai pu observer les rérés en Polynésie. C'est magnifique parce que les jeunes hommes féminins qui se sentent plus attirés par le côté féminin sont complètement intégrés socialement dès le milieu des années 60. Ils s'habillent en femmes. Mais ce qui est magnifique, c'est que les femmes les intègrent, leur donnent un rôle puisqu'elles leur confient leurs enfants. Donc, ils participent à la préparation des repas, ils participent à la prise en charge complète des enfants, et c'est une marque de confiance extraordinaire. Ça renvoie à des différences assez importantes. Et la troisième chose, c'est...
On peut revenir vers vous. Hein. Oui. On reviendra vers vous. Je vous laisse réagir, Wilfried et puis Mathieu. Je note, vous avez lâché un mot, c'est celui de permissivité qui n'est pas utilisé. En revanche, vous soulignez bien l'influence du contexte dans l'évolution de la perception, ce qui reviendrait presque. Voilà.
Oui, peut-être un mot sur les catégories socio-professionnelles. C'est effectivement quelque chose qu'on essaie de regarder dans la mesure du possible. Je dis dans la mesure du possible parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien renseigné dans nos enquêtes et qui, par ailleurs, est parfois problématique à regarder pour les raisons d'effectifs qu'évoquait Mathieu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de monde pour avoir des résultats relativement significatifs. Mais effectivement, dans la mesure du possible, on regarde ces choses-là et on voit des choses intéressantes. Et pour relier votre première et votre deuxième question, par exemple, ce qu'on peut observer, si on exploite des enquêtes faites aujourd'hui et si on les compare avec des enquêtes faites il y a 10, 15, 20 ans, c'est justement un petit changement dans les profils des minorités sexuelles. C'est-à-dire qu'à âge égal, par exemple, on trouvait peut-être un peu plus de personnes avec des origines sociales ou des situations sociales plus favorables il y a 15-20 ans par rapport à aujourd'hui. Ce qui est à mettre en relation finalement avec une visibilité croissante, avec une reconnaissance sociale et une acceptation sociale qui n'est pas aboutie, mais qui est probablement plus grande évidemment qu'il y a 15-20 ans. Donc voilà, ce sont aussi des choses qu'on regarde quand on s'intéresse aux attitudes vis-à-vis de l'homosexualité et des minorités sexuelles en général. Là aussi, on voit bien qu'il y a des comportements, des attitudes qui évoluent, mais qu'on prend avec des pincettes, justement en combinant souvent des approches qualitatives et quantitatives, parce que, par exemple, affirmer une certaine sympathie vis-à-vis des minorités sexuelles est peut-être parfois une manière de se distinguer socialement en termes de classe, par exemple, comme l'ont montré les travaux de Sylvie Tissot, d'autres groupes sociaux dont on présume qu'ils sont peut-être un peu moins tolérants. Voilà, il faut regarder tout ça, évidemment, toujours avec beaucoup de prudence et avec une approche critique.
Je laisse Mathieu prolonger s'il le souhaite, mais je ne vous ai pas cité, je vais le faire, parce qu'il me semble que c'est un complément de réponse par rapport à ce que vous venez de dire. C'est un passage dans lequel vous montrez au fil du temps à quel point les différences s'estompent. Je vous cite. Une rapide comparaison des enquêtes et recensements fait apparaître un recul des spécificités dans le profil sociodémographique des personnes en couple de même sexe, réduction des écarts dans les parcours scolaires, rapprochement de la répartition géographique dans le sens d'un rééquilibrage entre l'Île-de-France et en particulier Paris et la plupart des autres régions, mobilité géographique moins marquée, le contexte de visibilité et de reconnaissance sociale de l'homosexualité qui est à l'œuvre contribue à la réduction des spécificités, même si certaines, probablement liées à l'appartenance à un groupe minoritaire, demeurent. Et ce qui peut expliquer ce degré de permissivité d'acceptation de ces minorités. Mathieu ?
Juste peut-être pour ajouter, parce que ça croise un petit peu, c'est vrai qu'on évoque parfois des figures du lesbianisme du début du XXe, des petits cercles lesbiens finalement un peu élitistes avec des femmes qui ont énormément de ressources sociales, et je veux dire, c'est pas une critique, mais c'est vrai que l'idée qu'il y a des pratiques homosexuelles ou bisexuelles dans les classes populaires est aussi très bien attestée en fait par les historiennes, mais avec d'autres matériaux que la littérature, avec des traces notamment dans les archives médical ou judiciaire. Donc c'est un premier point sur dire qu'en fait il y a des modulations en fait des pratiques, des désirs homosexuels selon les classes sociales sans doute, et sans doute un degré de mixité sociale dans les espaces de sociabilité sexuelle, notamment entre hommes plus qu'entre femmes, puisqu'il y en a plus pour les hommes, qui est sans doute un aspect important d'un devenir gay ou bisexuel. Et l'autre point, c'est que la classe sociale, si on veut dire ça comme ça, est importante parce que ça permet aussi de différencier en fait les minorités de genre et de sexualité entre elles. Les études quantitatives ont souvent mis en avant, d'une part, les homosexuels masculins plutôt que les autres groupes, en partie du fait de l'intérêt, de l'épidémie de SIDA, c'était la population qu'il fallait saisir, mais aussi parce qu'il y a une visibilité sociale plus importante sans doute que pour les lesbiennes et les bisexuels, et puis de montrer qu'en fait c'était une population qui avait des capitaux relativement importants, plutôt urbaines, avec des positions socioprofessionnelles assez élevées. Et ce qu'on a pu montrer ces dernières années, notamment en se concentrant plutôt sur les bisexuels, c'est de montrer qu'en fait, il y avait une mixité sociale plus importante, avec une forte présence en fait des hommes et des femmes bisexuelles, mais aussi des lesbiennes dans des classes populaires, pour le dire assez rapidement. Donc l'idée aussi, c'est qu'on peut différencier à partir d'autres appartenances sociales, en fait, au sein des minorités de genre et de sexualité, de ne pas les aborder comme un groupe homogène, mais au contraire, qui varie, en fait, selon d'autres appartenances sociales. Et ensuite, juste rapidement sur la question, en effet, de ce que les anthropologues appellent le troisième sexe, finalement, puisque c'est souvent comme ça que c'est abordé. Et en effet, je pense que là, on sait bien qu'il n'y a pas une espèce d'histoire un petit peu linéaire, en fait, d'un accroissement de la tolérance et de l'acceptation, mais qu'en effet, les anthropologues ont très bien montré que il y a des figures, en fait, d'inversion du genre ou de déviance de genre, pour le dire rapidement, qui sont très acceptées, alors que d'autres le sont beaucoup moins. Ça fait partie des cas, en effet, que vous évoquez.
Intéressant. On a le temps de prendre encore deux dernières petites questions, donc madame, et éventuellement la troisième question de monsieur, si vous l'avez retrouvée. Et on va les prendre ensemble. Ah, bon, alors, trois, et hop, madame, allez-y.
Bon, j'ai vraiment une toute petite question. Pour Madame Red, vous avez parlé de la, que vous avez remarqué une habitude parmi les écrivaines de manifester une raison d'écrire, la nécessité d'une, de justifier l'écriture. Et donc, je voulais savoir si vous pouvez nous faire d'autres exemples.
Pendant que vous répondez, on fait circuler le micro.
Ma question, est-ce que vous vous intéressez à l'histoire de la transmission des pratiques sexuelles? Moi, j'ai étudié celle des adolescents des années 60-70, et celles qu'on me rapporte aujourd'hui depuis 10 ans sont complètement différentes. Et si on se rappelle le rapport Simon, pas celui de 70, mais de 60, 2/3 des femmes étaient frigides, 2/3 des hommes étaient éjaculateurs précoces. Donc, on vient de très, très loin.
C'était plus une remarque.
Moi, j'avais une question qui portait plus sur la méthode et vous avez introduit en parlant du lien entre quantitatif et qualitatif. Je voulais savoir si, sur ce sujet-là, ça avait posé des difficultés particulières.
Mais bon, je peux répondre, mais je pense que ça aurait peut-être pas beaucoup d'intérêt dans le cadre d'un débat général. Je pourrais vous donner une série de noms et vous expliquer qu'effectivement, chaque fois, elles ont imaginé des sortes de fables pour expliquer pourquoi il y avait nécessité d'intervenir. Peut-être l'une des plus fabuleuses, c'est celle de Rachilde, justement, où Rachilde va tout simplement dire que c'est à l'occasion d'une séance de spiritisme qu'elle a trouvé non seulement son pseudonyme de Rachilde, mais aussi une injonction à écrire. Et donc ça, bon, voilà, ponctuellement, mais de manière répétée, on a ce que j'appelle une fable de légitimation forcée et parfois un peu ridicule aussi, mais toujours présente, de comment est-ce que on justifie son appartenance à un champ qui est masculin.
Voilà. Wilfried et Mathieu, si je dis en réponse à la question de monsieur que non, c'est pas une histoire des pratiques sexuelles, c'est une histoire de la manière dont les enquêtes et les recensements ont saisi les minorités sexuelles. Est-ce que je fais une bonne réponse ou... Non, manifestement non.
Si, en fait, peut-être, mais c'est vrai que le livre porte moins là-dessus, mais qu'aujourd'hui, peut-être, on ne parlerait pas de transmission en sociologie, en tout cas, mais de socialisation sexuelle. Mmh. C'est-à-dire, en fait, et en effet, de ces évolutions. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres collègues qui ont travaillé ça, notamment dans un numéro d'Acte de la recherche aux sciences sociales qui est paru l'année dernière, qui montre, en effet, les dispositifs d'apprentissage, les figures par rapport, enfin qu'on se positionne, le sein familial, mais c'est vrai qu'on le saisit pas comme ça. Nous, c'est pas évident, à ma connaissance, à saisir dans des enquêtes de stats, ça me semble.
On verra ça demain avec Michel Bozon, sauf erreur de ma part, que vous citez d'ailleurs. Et on peut l'interroger. Donc, vous revenez demain. Et sur la question donc du quali versus quanti posée par
Vous vouliez dire donc des difficultés de quel niveau vous vouliez dire dans l'ouvrage
Oui. Vous D'accord. avez parlé au début. Enfin, quelqu'un a parlé au début de difficultés pour allier les deux, et je voulais savoir.
Alors en fait, nous, on a plutôt tendance à considérer que c'est pas un problème, que c'est une nécessité parce que y a pas tellement d'affrontements entre les gens qui font du qualitatif et du quantitatif. D'ailleurs, beaucoup font les deux. En réalité, on est pas mal soudés par les approches thématiques, par le champ de recherche qu'on cherche à nourrir. Et finalement, souvent, les approches quali et quanti se nourrissent les unes des autres. C'est par exemple parfois parce que certaines approches quantitatives sont très insuffisantes pour aborder certains modes de vie. Je pense en particulier les modes de vie ruraux que les grandes enquêtes quantitatives ne permettent pas d'aborder dès lors qu'il s'agit d'étudier les minorités sexuelles, faute d'effectifs. On retombe sur des questions un peu trivialement statistiques, mais voilà, c'est quand même une réalité qui se pose pour nous. Et justement, là, des recherches plus qualitatives vont permettre vraiment, comme celle de Colin Giraud qui est dans l'ouvrage, vont permettre d'aborder ce phénomène-là et de rendre visibles des choses qu'on ne peut absolument pas aborder par ailleurs. Et on peut faire l'hypothèse qu'à plus long terme, des travaux comme justement ces travaux qualitatifs permettront de nourrir des questionnaires et des enquêtes quantitatives ultérieures. Donc il y a plutôt de la complémentarité. Parfois, elle est même dans les approches, dans les chapitres, au sein des chapitres même. Un exemple, c'est le dernier chapitre de l'ouvrage, celui de Tania Leibovitch, qui justement confronte des catégories qui sont en œuvre dans les enquêtes par questionnaire, où on cerne les minorités sexuelles en leur demandant, en leur posant des questions sur leurs attirances, leurs partenaires, enfin leurs pratiques sexuelles et leurs identifications. Et elle met en miroir ces catégories d'enquêtes quantitatives avec les trajectoires de femmes non hétérosexuelles, en montrant que justement, à certains moments de la vie, selon certains contextes, elles ne vont pas avoir le même rapport aux catégories qu'on cerne dans le quantitatif. Donc on voit bien que la complémentarité entre les deux, elle est absolument essentielle et qu'elle fait avancer finalement les deux types de méthodologies simultanément.
Vous ne l'avez pas vu, mais Corinne m'a fait discrètement ça de signe comme cela il y a moins de 5 minutes, ce qui signifie que pour répondre à la question que j'ai gardée en suspens, on a beaucoup moins de 5 minutes pour répondre. Donc, est-ce que comment y répondriez-vous cette question sur la valeur ajoutée comment d'un travail collégial à l'occasion d'un travail d'un ouvrage collectif? Donc, vous répondez et on donnera la parole de la fin provisoire à nos deux éditrices, sachant que la parole pourra circuler de nouveau, mais de manière plus informelle. Bien, vous avez gardé le micro.
Oui, il y en a plusieurs. Alors, le fait d'avoir ce regard collectif, d'une part, il permet vraiment, là aussi, ça rejoint un peu ce que je vous disais à l'instant, en fait, hein, le cumul de regards permet vraiment d'enrichir les travaux de chaque contribution. Ça, c'est très, très net. Il y a aussi, évidemment, tout le processus d'édition qui va avec, qui oblige, alors peut-être en tant que coordinateur de l'ouvrage, à regarder l'ensemble dans sa globalité, à faire des ponts entre les ouvrages, avec l'aide aussi de l'éditrice qui a beaucoup contribué justement à l'homogénéisation de l'ouvrage, à sa cohérence globale. Donc voilà, il y a une valeur ajoutée de ce point de vue-là. Concernant la thématique en particulier, ça permet en fait cet ouvrage collectif de contourner certains risques qu'on a évoqués là, celui de la réification des catégories en multipliant les regards. Ça permet de rendre compte de recherches qui s'intéressent au spectre très large des minorités de genre et de sexualité. On n'a pas parlé, par exemple, de certains groupes qui en relèvent, comme les personnes intersexes, mais il y a un chapitre sur l'intersexuation qui est tout à fait intéressant. Voilà, ça permet aussi de se faire finalement plus inclusif sur ce qu'est ce groupe qui nous a intéressés et de voir ce qu'il fait aux recherches en sciences sociales.
Est-ce que j'imagine bien la situation, Mathieu, en vous imaginant tous deux penchés sur les contributions, à vous disputer éventuellement sur la manière de les réviser, de les travailler, etc.
Alors non. non, ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être sur l'avantage, en fait, c'est vrai que dans le cas précis des questions de minorité de genre et de sexualité, souvent, en fait, les questions LGBTQI sont traitées ensemble avec un angle santé-vulnérabilité, notamment en fait en Amérique du Nord. Et ici, le fait d'avoir différents contributeurs-contributrices permettait en fait d'amener d'autres domaines de spécialisation qui sont importants pour comprendre les logiques en fait de ces groupes. Sur le cas intersexe, par exemple, avec Miral Raz, Miral montre très bien en fait qu'on ne peut pas aborder cette question des intersexes sans avoir un minimum de connaissances en sociologie de la médecine en fait, parce que c'est des catégories qui sont pour une part médicales et parce que les vies intersexes en fait sont en partie prises dans la manière dont les médecins les catégorisent, ce qui suppose en fait de bien connaître ce point, ce qui n'est pas une nécessité qu'on fait une enquête sur les bisexuels par exemple. Et puis il y avait aussi il y a des articles qu'on peut évoquer parce que le livre est français, mais on a essayé de prendre d'autres cas, et notamment sur la manière dont on catégorise en fait les relations entre hommes dans les pays africains. Donc on a Joseph Larmarange et Christophe Broca, qui sont africanistes tous les deux, et qui montrent en fait comment les catégorisations changent selon les contextes nationaux. Donc là, ça suppose en fait des dispositifs d'enquête sur le temps long, une connaissance du contexte que ni Wilfried ni moi n'avons par exemple. Et là encore, ça a un effet important, c'est de pas homogénéiser, non seulement de pas réifier, mais pas homogénéiser en fait les minorités de genre et de sexualité, mais de montrer qu'en fait elles sont traversées en fait par des enjeux qui peuvent être complètement différence que parfois le militantisme LGBT en fait qui est important puisqu'il fait coalition occulte, et c'est important de remettre un peu de la différence en fait dans la manière dont ces groupes sont façonnés et vivent.
Martine, il me semble que vous avez répondu à la question, mais je vous laisse le soin de le confirmer, en assumant tout à l'heure, en évoquant, non pas un désaccord, mais une discordance, etc. Est-ce que justement la valeur ajoutée de ce travail d'édition, c'est de créer les conditions de l'expression d'une sorte de pluralisme au sein même d'une discipline, etc.
Oui, mais je rejoins l'expérience de mes deux collègues, c'est-à-dire que généralement les journées d'études permettent d'entendre ce que disent les autres et de situer son propre discours à cet égard. Forcément, une fois qu'on revoit sa copie, on la revoit au sens où on a en tête les arguments qui ont été portés par les unes et les autres, et donc la valeur ajoutée, c'est qu'aussi on a eu un deuxième temps de réflexion sur ses propres analyses. Ensuite, quand on dirige un volume, comme je l'avais fait avec Frédéric, eh bien, on accepte que les positions soient plurielles et qu'on ne soit pas nécessairement et absolument d'accord. C'est un débat, c'est en débat. Je pense qu'un ouvrage comme celui-là rend compte, alors rend compte comme il peut et modestement, mais d'un ensemble de questions qui sont posées. Chacune y répond ensuite comme il semble, et c'est l'intérêt aussi de maintenir les différences de points de vue.
Terminons ce dernier tour de table avec nos deux éditrices, peut-être pour vous entendre rappeler, vous l'avez dit incidemment, Mathilde Semblay, à moins que ce soit un aparté avant, je ne sais plus, mais en tout cas, vous rappeliez que la valeur ajoutée résidait aussi en l'existence dans ces maisons d'édition universitaire d'un comité de lecture, et ça change pas mal de choses. Mais je vous vois opiner du chef, Martine.
Oui, mais très rapidement, je vais reprendre ce qui a été dit. C'est aussi le reflet, enfin nous, c'est un institut de recherche, c'est aussi le reflet de la pluridisciplinarité des différents domaines qui sont couverts par cet institut. Donc, bon, dans ce cas-là, on est plus axé sur de la sociologie en général, même s'il y a quand même des sous-catégories, entre guillemets. Mais dans d'autres cas d'ouvrages collectifs, on peut avoir un panel de disciplines qui sont extrêmement larges, effectivement, qui sont confrontées dans un même ouvrage. Il faut en rendre la cohérence. Et puis les allers-retours, comme on a dit, hein, il y a un fil rouge à quelquefois qu'il faut savoir tirer quand on est éditeur. Ça n'a pas été le cas de cet ouvrage parce qu'il était vraiment très très bien pensé en amont et très cohérent de ce que j'ai reçu moi après comme travail. Mais quelquefois, le rôle va un peu plus loin, effectivement, où il faut trouver une structure, il faut trouver un fil rouge. Voilà.
Madame, je mets à disposition mon micro.
Merci. Oui, alors je vais compléter parce que chaque ouvrage est différent et au sein même d'une collection, on a plusieurs disciplines universitaires et de recherche, et notamment pour les deux créatrices de cette collection, c'était important de faire parler des recherches moins visibilisées, comme par exemple la sociolinguistique, c'était pour elle important, la sociologie du travail, de la formation. Donc, par exemple, en 2023, il y a eu 3 ouvrages édités dans cette collection, mais dont les thèmes sont très différents. Donc, je vous donne les titres, comme ça va vous éclairer. Des hommes dans les métiers de la prime enfance, une mixité professionnelle contrainte par le genre, genre et identité sexuelle chez Colette. Puis on a figure et personnage de criminel, féminin, des histoires tragiques au roman policier. Ça, c'est le dernier qui est paru il y a quelques mois. Donc c'est vrai que ça permet d'aller. Il faut arrêter, c'est ça?
Non, c'était pour m'assurer. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais vérifier auprès. C'était pas pour vous interrompre.
Effectivement, nous, on reçoit les manuscrits. Il y a eu ce premier colloque. Ensuite, les auteurs les retravaillent, puisqu'il y a un travail d'oralité pour la présentation de colloques avec projection de diaporama, des choses comme ça. Et puis nous, on travaille les textes qui ont été d'abord passés en comité, donc et comité scientifique et comité éditoriaux. Puis après, avec deux expertises à l'aveugle et croisées, c'est proposé au comité éditorial des presses universitaires. Puis après, il y a un accord ou non pour la publication. Et ensuite, nous recevons le texte brut auquel on peut faire force de proposition, par exemple des iconographies. C'est le cas, j'ai proposé deux iconographies pour votre ouvrage. Vous voyez, donc on travaille avec des allers-retours et on propose beaucoup. On peut pas intervenir de manière brutale, ça peut être mal pris. Voilà, c'est toute une gymnastique. Voilà. Mais c'est passionnant.
Éminemment humaine. Merci pour ces témoignages. Merci à Martine Red de nous avoir fait sentir l'extrême richesse de genre et identité sexuée chez Colette sans avoir épuisé le sujet et donc d'avoir donné envie à notre public d'acquérir l'exemplaire ici même pour la modique somme de 17 euros. Et puis merci à Wilfried et puis Mathieu de vous être livré au même exercice, rendre compte de l'extrême richesse sans avoir épuisé le sujet. Merci également d'avoir, ce faisant, fait résonance avec les ouvrages dont on parlera demain. C'est une invite à revenir demain en vous plaçant cette fois-ci de l'autre côté de la barrière. Je veux parler de la contribution de ce juriste dont le nom m'échappe. Merci. Paru en 2017 dans ce numéro de Sociaux. 2017, c'est loin, mais on verra que le texte reste d'une étonnante actualité. Genre, sexe et sexualité qui nous font rentrer dans la fabrique des manuscrits, des journaux intimes et des carnets dans lesquels les auteurs pensent, imaginent leur œuvre. On en dira plus demain. Donc ça, c'est avec Daniel Constantin qui nous rejoindra. Et enfin, le monde privé des femmes, avec une préface d'Olivier Schwartz, qui, comme son nom, le titre le suggère, nous fait rentrer dans l'espace domestique, mais bien plus dans le cadre de vie, dans l'habitat au sens large du terme des femmes, en montrant en quoi les modalités de logement, d'habitat, modifient, pèsent sur leur rapport aux hommes. Et nous le ferons, nous découvrirons ce livre avec Michel Bozon, que nous avons cité tout à l'heure et que vous citiez dans votre ouvrage. Donc, à demain, tous les trois ici même, sans préjuger des contraintes qui pèsent sur votre agenda. Corinne, sans plus tarder. Voilà.